Une petite chanson de trêve devant le siège de Monsanto.
Dans les champs, les magasins, ralalalalère, on boycotte et on les pousse, gagnons cette lutte pour la terre. Assez travaillé pour toi, la petite exploitation, maintient l'Europe en retard. Hors de la compétition, il y a trop d'agriculteurs, c'est pas raisonnable. Quelques millions au chômage et le repère sera viable. Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire?
La lutte continue!
On les mettra à l'usine, on va toujours de prolétaires.
À bientôt!
Lundi 19, 7h du mat, info du jour. Des milliers de poissons morts dans les temps de mer. Bon, la journée commence bien. Commentaire. On se demande si cette hécatombe est due à une pollution industrielle ou à une mort naturelle. Un peu d'humour dans ce monde de brut. Allez, c'était Denis de la Bourgogne. Salut à tous.
Oui, bonjour. Je sais pas dans quel état je suis là, entendre votre émission là sur les prostituées. Alors déjà au départ j'étais très en colère parce que infirmière de la sexualité publique, moi je suis infirmière libérale, j'étais en train de partir faire ma tournée, il pleut, il y a du brouillard, il fait froid. Et moi je vais m'occuper de gens là jusqu'à 21h, 22h pour 2,90€ l'injection, j'aspire des trachéos pour 5,80€, je vais démerder des gens, etc. Et puis je les entendais, et puis là je suis devant chez mon dernier patient parce que j'ai écouté quand même en diagonale, et puis cette prostituée qui s'est fait agresser. Ah, je me suis dit tiens là, on doit avoir besoin de vraies infirmières. Je sais pas dans quoi penser là, mais en tout cas j'ai un peu les boules quand même. Mais bon, c'est comme ça. Alors peut-être que dorénavant, au lieu de dire que je suis infirmière, je dirais que je peux être pute, par exemple. Pourquoi pas, hein? Ça serait pas mal. Mais le fantasme des infirmières, je vous dis pas comme les patients nous font chier avec ça. Alors, qu'est-ce que ça serait bien d'arrêter de véhiculer ce genre de message? Enfin bon, bref, bon week-end. En tout cas, moi je vais bosser ce week-end. Je travaille un jour de suite, la Noël, le jour de l'an. Etc. Bah écoutez, c'est comme ça, hein. C'est des choix de vie. Et ben joyeux Noël à tout le monde. Au revoir.
Bah c'était juste pour vous remercier. Je fais beaucoup de route, mais là ça faisait très très longtemps que j'avais pas entendu un aussi beau reportage, aussi touchant, émouvant sur l'un des plus vieux métiers du monde et toute la souffrance humaine. Mais vraiment merci beaucoup.
J'ai appris que t'étais sur l'île en ce moment, donc je suis vraiment de tout cœur avec toi et continue ton combat. Là, je ne sais pas le sujet exact de ton émission sur l'île, mais mets le paquet. De la part de Gilou, un musicien et accessoirement enseignant. Allez, vas-y, et longue vie à toi. Il y a l'émission là-bas, moi j'y suis. Allez, ciao.
C'est Angélique de La Réunion. Je ne sais pas si Daniel est toujours à Mayotte et si il peut avoir les messages de son répondeur. En tout cas, je vous appelle parce que à Madagascar, il y a une famine terrible. Qui sévit donc à Manambondro, entre Fort Dauphin et Farafangana. Depuis le dernier cyclone, donc il y a eu des inondations, les paysans ont absolument tout perdu, et ça fait un an que les familles meurent de faim, littéralement. Là, depuis 6 mois, les gens sont réduits à manger des racines de nénuphar, et il y a des personnes âgées, des enfants qui meurent dans l'indifférence quasi générale. Donc bah, si jamais vous avez ce message et que bah, vous avez l'opportunité d'y passer ou je sais pas, de faire quelque chose, voilà, je vous transmets l'information. Au revoir.
Bonjour, merci de faire une émission sur Mayotte, qui est un sujet important en effet. Je crois que pour traiter ce sujet, il faut pas oublier de dire que en droit international, Mayotte n'appartient pas à la France, puisque elle a été reconnue par l'ONU 12 novembre 1975 comme l'une des 4 îles de l'État comorien. Et la France y a maintenu son drapeau, ce qui a été condamné en termes très fermes 20 fois de suite par l'ONU. Donc l'émission émission de sur Mayotte, c'est très bien. Il faut penser à dire que ce n'est pas une émission sur l'immigration, ni une émission sur les clandestins, mais une émission sur un territoire occupé et des autorités françaises qui expulsent de façon illégale des populations, qui les déplacent, donc, puisque c'est les Comoriens qui se rendent à Mayotte, qui vont d'une île à l'autre, ne franchissent aucune frontière en droit international. Voilà, merci. Bonne émission.
Je voulais rappeler qu'en 2001, il y a eu une consultation électorale à Mayotte et qu'à cette occasion, 73% des électeurs de Mayotte ont voté pour la collectivité départementale, c'est-à-dire pour un ancrage plus fort de Mayotte dans la République française. Quant aux 27% qui ont voté non, la grande majorité d'entre eux trouvaient qu'on n'allait pas assez loin et qu'il fallait faire le département tout de suite. Autant dire que les idées indépendantistes ou favorables au rattachement de Mayotte aux Comores ne font guère recette ici. Pourtant, des voix s'élèvent régulièrement, pas chez les Mahorais, bien sûr, mais aux Comores ou chez les métropolitains de Mayotte, pour s'opposer à ce que Mayotte reste française, et ceci le plus souvent, au nom de l'anticolonialisme. Ce qui est formidable tout de même, car les Comores unis, c'est une invention du colonisateur. Au moment de l'indépendance, on n'a pas respecté le principe selon lequel il fallait conserver les frontières antérieures à l'indépendance, les frontières tracées par le colonisateur, donc. Quel dommage! On l'a fait pour l'Algérie, on l'a fait pour la Côte d'Ivoire, avec le succès que l'on sait. C'est tout de même étrange, lorsqu'on est contre la colonisation, de vouloir ainsi qu'on respecte à tout prix le point de vue du colonisateur contre l'avis de la population concernée, sans tenir compte du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Est-ce que les Mahorais sont de grands enfants pour qu'on cherche ainsi à faire leur soi-disant bonheur contre leur gré? Ils ne veulent pas être comoriens, ils veulent être français, ils sont français, et le rappellent clairement à chaque consultation. Merci Daniel.
Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Je téléphone parce que le mardi 22 ou le 29, en tout cas c'est un mardi c'est sûr, novembre, j'ai pris ma voiture, je venais d'accompagner ma fille au collège de Chiconi, à Mayotte. Et puis j'allais faire des courses à Mamoudzou. Et je suis passé sur la route qui menait à Mamoudzou, à Tsunzou 2. Et là, j'ai vu des gendarmes mobiles avec des gants noirs. J'ai vu des engins de destruction massive, comme on dirait, en orange de la DDE. J'ai vu des familles qui se cachaient à gauche, à droite des gens qui pillaient des tôles. Alors j'ai dit, ça y est, c'est bon, je suis tombé dans un film. Non, c'était pas un film. Ça s'est passé le mardi 22 ou le mardi 29 novembre. Ça s'est passé à Mayotte, République française. Voilà, je tenais à le témoigner et puis...
Voilà, si vous avez compris ces messages, messages sur Mayotte et sur les environs, eh bien, c'est pas la peine que nous soyons venus ici voir là-bas si on y est. Car ces auditeurs ont résumé la situation et les controverses au sujet de Mayotte et des Comores. L'histoire néocoloniale pour les uns, un morceau de France menacé par des hordes barbares pour les autres, mais franchement, qui en métropole s'intéresse à ces confettis perdus au bout du monde? Pas grand monde, et ce n'est peut-être pas un hasard. Un hasard que nous allons élucider, naturellement, comptez sur nous, vous nous connaissez. En attendant, merci aux auditeurs de Mayotte qui nous adressent des messages de toutes sortes, des signes de sympathie, ça nous fait très plaisir. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de répondre à tout le monde, mais merci infiniment. Un aspect très intéressant dans la culture des Comores et aussi à Mayotte, c'est le lien, le rapport et le lien entre la culture occidentale et l'islam, disons. Par exemple, en termes de droit, il y a une entente entre la justice, le droit français et le droit coutumier, le droit cadial. Et ben, ma foi, depuis pas mal de temps, ça se passe pas mal du tout. Et ben, pensez-y dans la balade qu'on va faire aujourd'hui dans le Paris arabe. Paris arabe, nous retournons dans les rues de Paris et dans les quartiers de Paris où cette présence peut s'observer depuis pas mal de temps. Et pensez aussi que le mot Comore vient d'un mot arabe qu'on prononce à peu près Kamal, à peu près, je me suis laissé dire ça, ce qui veut dire la Lune. Et donc, l'archipel des Comores, c'est l'archipel de la Lune. Alors là, on commence à rêver, on commence à voyager comme quand on était petit. On dit aussi l'île des parfums, les îles des parfums. Et ça, c'est vrai. C'est des îles très parfumées. C'est très, très beau, on oublie. On va tout de suite sur les choses graves, politiques, etc. On a bien raison, mais on finit par oublier le plaisir de voyager. On oublie à cause de cette l'idéologie touristique qui pollue, qui pervertit tout. On oublie les plaisirs les plus simples et devant une nature aussi extraordinairement belle que celle de ces îles des Comores. Donc voilà, balade dans le Paris arabe. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, c'est Rosaire de Simiane, près de Marseille. Courant septembre, Monsieur de Villepin a déclaré l'urgence sur le projet de loi DADVSI, c'est le droit d'auteur, etc., sur injonction de la Commission européenne, et ce projet de loi va être voté en douce et en force aux environs du 22 décembre, en séance de nuit. Alors le problème, ce projet de loi est annoncé comme devant lutter contre le piratage pour protéger le droit d'auteur, et c'est faux. Parce qu'il faut savoir que le droit d'auteur est actuellement parfaitement protégé par les lois actuelles, qu'il suffirait d'appliquer. Alors en réalité, il s'agit de donner tout le pouvoir de contrôle sur ces libertés aux majors du divertissement, tels Sony, Microsoft, Vivendi, etc. Mais aussi, j'allais dire surtout, de liquider le logiciel libre. Par exemple, actuellement, le public a le droit de copier privé, de télécharger, bien qu'on le cache, y compris sur France Inter, chez M. Paoli. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de diffuser des œuvres. Alors ce texte vise à autoriser des logiciels, on appelle ça des DRM, des logiciels de contrôle d'accès aux CD, DVD, etc., qui seront contrôlés exclusivement par les majors. Ces logiciels seront donc des logiciels secrets, on dit propriétaires, qui permettront de contrôler les ordinateurs des utilisateurs à distance. Un vrai tapis rouge pour Big Brother. Alors on est quelques-uns à militer pour que ces logiciels puissent être des logiciels libres, qui sont des ennemis pour Microsoft, car en fait, ils l'empêchent de contrôler tous les ordinateurs de la planète. Alors le drame est que la plupart de nos politiques sont aux ordres des grands groupes et prêts à voter des lois écrites par des personnes non élues, évidemment. Ils autorisent des polices privées à espionner les citoyens sans mandat juridique, ce qui est une des caractéristiques fondamentales du totalitarisme. Alors le projet de loi DADVSI va rapidement exclure les auteurs de logiciels libres des domaines que sont le multimédia, l'info, etc. Et cette loi répondra aux attentes de tous ceux qui ne veulent pas entendre parler de partage des connaissances. Alors il faut demander au Premier ministre de retirer le projet de loi. Il faut demander un débat véritablement démocratique où on donnerait aussi la parole à d'autres acteurs que seulement l'industrie de la culture. Alors vous pouvez aller voir sur le site EUCD Info, il lance à cette occasion un appel et donc en fait qui regroupe toutes les informations à ce sujet, et vous pouvez aussi le faire savoir à votre député. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.
Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a plus de RMistes aujourd'hui que de chômeurs il y a 20 ans ?
En direct de Trèves, voilà, les gendarmes sont arrivés, ils protègent le silo. Où sont les OGM ? On sait où ils sont maintenant. Voilà, là, ça commence à s'agiter un petit peu. Et ben voilà, là, la suite du reportage à Trèbes, hein, où on est à peu près 150.
Tu peux dire qu'il y a des gars qui ont
réussi
à rentrer.
Il y a des gars qui ont réussi à rentrer, poursuivis. Je regarde où ils sont, on ne les voit plus. Ils sont partis. Il y a un sitting qui se crée. Voilà, en direct de Trèbes, contre les OGM, contre Monsanto. Tout le monde, la prochaine fois, tout le monde, faut venir. Qu'on soit le plus nombreux. Résistance à ceux qui veulent dominer le monde. En direct de Trèbes.
Tu viens de laisser un message sur un bâche, j'y suis. Tu es à Mayotte, et puis tu vois une étoile, et tu dis, il n'y a qu'une seule étoile. C'est pas une étoile, c'est une planète, c'est Vénus. Bon, et c'est bon que tu fasses un peu des progrès en géographie. Allez, bonne continuation. Ciao.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil et Pascal Blanchard, le Paris arabe.
Flight number 2, arriving from New York.
Quand je suis allé en Afrique, j'ai visité tous les pays. Oh, mais oui, j'ai vu des choses féeriques, mais surtout ce qui m'a séduit, c'est de voir de belles Fatma. Qui sortillait en disant ça. Anana, chouya, redabinda, kunaha. C'est ce que dansent les moukaires sous les grands palmiers dans le paradis d'Allah. Anana, chouya, redabinda, kunaha.
Voilà, 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 c'est là qu'on va. On va dans le paradis, on va dans le paradis d'Allah, ou presque. Presque, parce que ben, c'est à Paris qu'on va essayer avec Guy Ventil et Pascal Blanchard de découvrir, de redécouvrir les traces d'une mémoire ou d'une présence arabe dans Paris. Il y a beaucoup de Paris, je disais, il y a toutes sortes de parcours qu'on peut faire dans Paris, Paris des églises, Paris de la Commune, Paris des égouts, Paris des catacombes, Paris des guerres, des paix, des mystères et des amours. Et là, on va essayer de voir ce que Paris dit du monde arabe. Alors, dès qu'on dit le monde arabe, on dit beaucoup de choses très différentes. Dès qu'associées au mot Paris, ça donne mosquée, ça donne goutte d'or, ça donne 17 octobre 61, ça donne une quantité d'images qui surgissent à l'instant. Mais ce que ces images ont toutes en commun, c'est d'être inaperçues, disons, ignorées, en friche. Trop d'honneur pour certaines mémoires parisiennes et trop d'oubli pour certaines autres. Trop d'amnésie, là-bas, une sorte d'hypernésie, c'est-à-dire un trop-plein de mémoire. Il faut oublier, mais on ne peut avoir de présent que si l'on a un passé. Et notre pays, on le sait, est de plus en plus un pays qui intègre cette présence, qui doit intégrer cette présence arabe. Or, depuis les temps éloignés, des mahométans, des sarrasins, on a régulièrement... il faut tout recommencer, c'est-à-dire tout d'un coup on dit comme si les choses et les gens et les hommes et l'histoire surgissaient comme un problème nouveau, comme si cette intégration en fait ne se faisait jamais tout à fait, comme si c'était toujours un problème. Et c'est vrai que nous en sommes toujours là. La mémoire arabe de Paris ne fait pas partie des mémoires apaisées. Voilà ce qui a inspiré les auteurs d'un livre tout à fait remarquable, Paris arabe. Ils sont plusieurs. On va rencontrer l'historien Pascal Blanchard, mais ils sont d'autres à avoir travaillé sur ce livre. Éric Desroux, Driss El Yazami, Pierre Fournier, Gilles Manseron. C'est un bouquin qui est sorti à la découverte. Il y a déjà quelques mois, mais on a eu envie de se balader dans ce livre richement illustré, comme on dit, et surtout dans les lieux de cette mémoire, et dans des lieux qui sont en eux-mêmes déjà des friches et des lieux inaperçus et très très loin de ce que disait en tout cas Balzac de Paris. Paris est la ville du cosmopolite et des hommes qui ont épousé le monde. C'est sur France Inter, c'est là-bas si j'y suis. C'est jusqu'à 18h, le Paris arabe.
Yeah, yeah, jeune, j'ai souvenir d'une madame Nicole. Un style qui pensait qu'un boulot n'était pas fait pour l'école. Je portais un velours troué, des bottes rouges en plastique, une cagoule en laine, un chandail ou des plaies baskets. Le coiffeur ne savait même pas encore que j'existais. Mais sois sûr que le premier qui nous a vu s'est désisté. Pourtant jeune et innocent, la mort volait sans clinet. On squatte le bac à sable avec son sable et nos idées, afin de faire du vandalisme, même sans le savoir. Nos parents n'ont pas, donc on erre sans avoir. Après nos voisins, de gros racistes, je le précise. Nous étions mal élevés, leur père généralement mieux dressé. Moi j'y crois pas, d'ailleurs j'y ai jamais cru. Car parental est le seul amour que j'ai jamais eu. Donc pour pas se vénérer, ce qui met à l'amende, les vertus du nerne, donc du thé à l'amande.
Bidonville, ambiance clandestine dans un bar à Barbès. Et à la menthe, couscous et tagine à la carte. Plus de scopitone pour Mouloud et Saïd Abdallah. Avec un sale accent, pas de salam alek. Me dit Hazen la tête, originaire d'Algérie, d'Hollywood à Tamarasset. Plus de thé à la menthe, juste des palabres amères. Comme un malade mental, j'ai mal à la tête. Je cavale en Stan Smith, Adidas, jeans 501, ça va, je m'en tape. Ici c'est l'attentat. Pour quelques douces de plus, y'a des carnages dans l'air. Cette France me désintègre, on classe arabe comme un barbare bancal. Nique la culture du barbecue, du steak et des fast-food au bled. C'est la djellaba là-bas et les sandales. Boujda à Casablanca. C'est banal en bas de la tête, j'm'emmerde et j'pèse que dalle. Ça se bat la frambade, mon rôle, ma peine et ma joie se confondent. Et c'est tout ce qui reste de notre héritage culturel. De notre héritage culturel.
Là, il y a les Noirs, là-bas, il y a les Allochinois. Derrière là-bas, il y a les Malgaches.
C'est lui que vous devez aller, vous, c'est... Oui. C'est là, on est passé, on est rentré par là.
On est rentré ici, on est exactement là, actuellement.
D'accord.
On a demandé de pas y aller au Togo.
Parce qu'on est perdu là sur le plan, Pascal Blanchard avec vous. Parce qu'on est dans un endroit qu'on connaît pas très bien. Déjà, on s'est fait ouvrir la porte. Mm-hmm. C'est un très joli espace vert dans un coin du bois de Vincennes.
7 hectares à la lisière, en fait, de Vincennes, du bois de Vincennes, et qui touche la municipalité de Nogent. Pour ceux qui connaissent un peu le bois de Vincennes, c'est une partie qui est peu connue, puisqu'en fait, c'est une partie qui n'est pas ouverte au public, sauf à des horaires assez précis, et le week-end maintenant.
Oui, le week-end après-midi, le voilà. Samedi et le dimanche après-midi.
Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui viennent le week-end. Je crois qu'il est peu connu. En fait, donc, il porte le nom de jardin tropical. Il a eu à une époque l'appellation de jardin colonial. C'était, on va dire, avant la Première Guerre mondiale. Mais il a toujours été spécialisé dans tout ce qu'on peut appeler étude des produits à caractère tropicaux. Puisque vous voyez d'ailleurs derrière nous, il y a encore des serres d'époque qui datent, si la mémoire est bonne, de 1899. Puisque le jardin est ouvert à la fin du 19e. Mais en fait, ce qui va lui donner à la fois son caractère historique, dont on peut dire que le temps s'est arrêté ici, c'est qu'en 1907 va avoir lieu... ici une grande exposition coloniale, la première grande exposition coloniale parisienne, même si deux ans avant il y avait déjà eu une première tentative, mais qui avait été plutôt un échec. Celle de 1907 va bien marcher, puisque on table aujourd'hui dans les, à peu près sur 1 million de visiteurs, à peu près, qui sont venus ici. J'essayais quand même d'imaginer qu'ici il y avait des éléphants. Il y avait le village cambodgien, le village laotien, il y avait ces Touaregs qui chaque jour, toutes les après-midi, à 15-16 heures, se mettaient en tenue, ces hommes bleus du désert, comme on disait à l'époque, ils avaient des grandes lances.
C'est-à-dire qu'on avait, tout amené sur place.
Exactement, et y compris des bâtiments dont on va aller tout à l'heure se promener dans les, à l'intérieur, derrière les arbres qu'on voit, puisqu'il y avait également un pavillon de la Tunisie, un pavillon du Maroc, qui va avoir ce particularisme assez unique et peu connu, de servir de mosquée. C'est-à-dire que c'est l'un des premiers lieux de prière qui va, au départ, il est créé, je veux dire, d'une certaine manière assez anecdotique. Pour les visiteurs, c'était une manière de reconstituer l'islam au cœur de Paris, donc il se devait d'avoir cet espace mi-religieux, mi-civil, mais va devenir réellement une mosquée à la suite de l'exposition. C'est-à-dire qu'indirectement, on a affaire à la première mosquée ici, construite donc à Paris déjà, et en France, est ici. Et elle existe toujours. Bien sûr, elle a fonctionné quasi jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans le sens où il n'y avait pas d'autre lieu de prière dans Paris. Et les deux imams vont être nommés dans ce lieu, qui également aura servi, sous la guerre 14-18, d'hôpital pour les blessés du Maghreb, blessés au front, qui venaient un peu, je dirais, en repos à l'arrière des lignes pendant tout le conflit de 14-18. Et je crois que jusqu'à 22-23, les deux imams vont officier ici et vont faire pression sur les autorités parisiennes pour réclamer une autre mosquée, qui deviendra la grande mosquée de Paris, qui sera construite en 26. Mais donc, c'est resté pendant de nombreuses années l'unique lieu de prière de Paris à l'intérieur de ce jardin.
Quand vous entendez la sirène du bateau résonner, toutes les familles
même s'ils n'ont pas un de leurs enfants qui prenait le bateau, qui partait, vous les voyez les larmes aux yeux qui perdent, parce que ils savent qu'ils vont partir vers un autre destin, vous savez. Alors on m'avait préparé des petites boulettes chez nous, vous savez, les Nord-Africains préparent toujours des petites boulettes de viande et qu'on met dans l'huile d'olive avec des olives dans une petite boîte. Et j'avais un chapeau rouge, vous savez, chez Chia. Et quand le bateau a quitté le port et s'est éloigné un peu, j'ai jeté mon chapeau parce que je me suis dit je ne reviendrai plus en Tunisie. Je le pensais, c'est vrai. Et disons que je suis arrivé le lendemain matin à Marseille. Et j'avais une valise et je suis allé à la gare Saint-Charles et j'avais honte. J'ai omis de vous dire, quand j'arrivais très tôt le matin vers Marseille, c'était le sombre, c'était l'humidité, très tôt, vous savez, vers 4 heures, et j'avais le reste des petites boulettes comme ça, et je les ai jetées aux poissons, parce que je me disais que je vais arriver en France, ça va être formidable. Sincèrement, au début, quand je travaillais sur chaîne à la régie Renault, je n'aimais pas Renault, je savais que j'avais besoin d'elle. Ce n'est que quelques années plus tard, quand j'ai eu la chance de prendre du cours du soir et d'évoluer et de me faire une meilleure situation, que je suis tombé amoureux de Renault. Et je crois qu'elle aussi, elle est tombée amoureuse de moi parce qu'elle me le rendait bien. Moi, je voulais devenir français et même m'insérer dans la société, vous savez, m'insérer dans la société française parce que j'étais amoureux de la langue de la littérature française. Je me suis dit, maintenant voilà, puisque je parle français. Et je me suis aperçu que le plus que je vais essayer d'apprendre la langue française, le plus je vais essayer d'évoluer dans la langue française, mais ça ne veut pas dire que je suis resté toujours à Mohamed.
Entre les vertus républicaines et l'entreprise coloniale, Paris arabe. On a découvert dans les friches vers le bois de Vincennes à Paris, ce qui pouvait rester comme trace de ce Paris arabe dans le mémoire des expositions coloniales. Et puis évidemment, on s'est retrouvé ensuite à la mosquée de Paris, où on est allé prendre un thé à la menthe pour évoquer cette histoire à la fois d'une ville qui a représenté, qui continue de représenter pour le monde arabe, la ville des droits de l'homme, des libertés, etc., mais aussi la capitale de l'ancien empire colonial. Quand on dit arabe, mosquée, musulman, il faut évidemment rappeler que tous les arabes ne sont pas musulmans et qu'en revanche, beaucoup de musulmans ne sont pas arabes. Cette confusion en elle-même dit assez les contradictions et l'ignorance dans laquelle nous continuons d'être en dépit de ce long séjour commun à l'intérieur de notre capitale française.
Depuis toujours, la France est une terre d'accueil.
La France, c'est dans le monde le pays des droits de l'homme.
On a grosso modo un flux de population qui fait qu'on doit avoir en Île-de-France, en fonction des années bien sûr de l'entre-deux-guerres, entre 50 000 et 100 000 nord-africains et orientaux à peu près dans Paris. Domine largement les Kabyles, l'Algérie. D'ailleurs, on peut même beaucoup plus l'appeler un Paris Kabyle dans son regard qu'un Paris arabe, d'une certaine manière. Le flux de population quand même est assez rapide, c'est-à-dire que la plupart de ces travailleurs qui s'installent viennent 2-3 ans dans Paris.
C'est des hommes célibataires, enfin des hommes seuls.
Essentiellement, il y a moins de 1% de femmes. La grande différence d'ailleurs avec l'immigration chinoise ou indo-chinoise, c'est essentiellement une immigration masculine de travailleurs.
Des bras qui sont pas faits pour s'installer ici.
Non, et alors, bien sûr, qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas que des travailleurs pour les usines. Bien sûr, certains, il y a l'image emblématique qu'on connaît tous, Renault, les usines automobiles. Mais vous avez des gens qui travaillent dans tous les domaines de l'industrie, mais on est dans le petit commerce, par exemple. Déjà, il y a une cinquantaine de bistrots arabes ou de restaurants arabes dans Paris. Il y a aussi plein de petits commerces. C'est-à-dire, ce qu'on a oublié aujourd'hui, truc, c'est qu'il y a des colporteurs maghrébins dans Paris, qui est un vieux métier parisien, des petits vendeurs de rue, par exemple. Vous avez aussi, comme ça, un certain nombre de maillages dans la ville, d'intellectuels aussi, qui sont présents. Aussi bien, d'ailleurs, Syriens, Libanais, Algériens, Marocains, Tunisiens. Ce que je veux dire, c'est que Paris est vraiment une capitale du monde arabe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on envoie les élites du monde arabe étudier à Paris, parce que le voyage initiatique de Paris, les études à Paris, et même, je dirais, le bain qu'on rencontre à Paris est un bain de mélange et de rencontres qu'on ne peut pas trouver ailleurs. L'ensemble de l'élite algérienne de l'époque, qu'il soit d'ailleurs d'origine plutôt nationaliste, plutôt socialisante, voire même monarchiste, voire tout simplement au niveau des oulémas, vous les croisez tous dans Paris. Vous avez également dans des ligues d'extrême droite des militants de chez nous, maghrébins. L'histoire, par exemple, d'Abrahmane Al-Mahdi, qui terminera sous drapeau allemand, mais également proche de la milice, qui sera numéro 3 du PPF de Doriot, ce qui n'est pas rien. Bon, en février 34, dans les grandes manifestations des ligues dans Paris devant le Parlement, le premier mort est un maghrébin d'Action française. Je veux dire que il faisait partie de la vie politique de la cité.
Voilà.
C'était des militants de la ville, ils étaient acteurs de cette histoire. Mais vous avez aussi des grands noms qui sont partis avec les brigades internationales. Et vous avez, pendant les années 24, le Parti communiste présente des maghrébins aux élections municipales dans Paris. Alors, ce qu'il faut voir, justement, c'est qu'il y avait, si vous préférez, une vie quelque part plus normale qu'au Maghreb. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, si Paris est une capitale coloniale, Paris est aussi la ville des libertés. C'est-à-dire qu'à Paris, on pouvait s'exprimer politiquement. Même s'il y avait cette pression des organismes de contrôle et autres, il y avait quand même une plus grande liberté qu'à Alger, Casa ou Tunis.
Alors, le 11 septembre 2001 a lâché les chiens du racisme anti-arabe et de l'islamophobie, mais ce rejet a une histoire. Si on écoute Pascal Blanchard, eh bien cette islamophobie qui sévit actuellement a une histoire, et cette histoire est visible encore à certains endroits dans Paris.
Autant avant il y avait le banania, le bamboula, et tout ce qu'il y a, la stigmatisation du maghrébin, le rejet de plus en plus important s'enracine dans ces années-là.
Oui, on peut presque le suivre au jour le jour. C'est-à-dire que vous avez cette progression des années 20 à 26 où va commencer à se fixer ce discours sur, je dis, les phrases dans le roman noir à l'époque, ce n'est plus le boulmiche et le bougnoulmiche. C'est de voir le double jeu de mots de cette invasion qu'il y a, ou ces textes sur qui tue, c'est le Sidi qui tue avec son couteau qui nous attend à l'angle de la rue. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà, vous commencez à voir les thèses de Moko sur les indésirables en France, vous commencez à voir des bouquins qui sont sur 3 millions d'étrangers en France, sur les métèques, tous ces mots sont les vocabulaires de l'époque. Ce que vous retrouvez dans Je suis partout, dans l'Action française, dans Gringoire, dans Candide, dans l'Ami du peuple de Coty, où on nous raconte que Paris est envahi par des hordes de peuples de couleurs qui vont venir violer nos femmes en peau de léopard, qui étrangleront nos enfants, qui viendraient envahir Paris, comme on disait à l'époque. Et donc tout ça monte progressivement, dans tous ces années 20, en toile de fond d'une inquiétude post-Première Guerre mondiale, d'une société qui s'enfonce aussi progressivement dans une crise qui va arriver à la fin des années 20. Et donc, tout ça est assez prégnant, et il faut le mesurer, c'est que vont se construire à ce moment-là tous les stéréotypes d'exclusion, parce que plus de maghrébins, par exemple, arrivent en France, plus la construction d'un rejet de cette population migrante sur le sol métropolitain va commencer à prendre forme. Donc vous avez tout ce contexte de pression, et qui va pratiquement trouver son apogée à la fin des années 20, au moment où justement on glorifie dans Paris avec une humiliation ultime, totale, le centenaire de la conquête de l'Algérie en 1930. C'est l'une des plus grandes humiliations qu'on ait pu faire à l'Algérie. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement commémoré la présence de la France, on a commémoré une défaite, on a commémoré une humiliation, et on le fait avec faste. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut imaginer ce contexte. D'un côté, vous avez cette pression dans la ville, ce rejet xénophobe. De l'autre côté, vous avez cette humiliation totale qu'est 1930, qu'est la commémoration du centenaire de l'Algérie. Et vous aviez ici la grande mosquée, vous avez tous les bistrots arabes en Paris. Donc, il faut quand même imaginer que dans cette ville, en permanence, vous avez ce rythme entre regard sur l'autre et ouverture à l'autre, et en même temps oppression coloniale, et en permanence on lui renvoie cette image d'homme humilié, d'homme dominé. Et ça, c'est ce contexte qui fait qu'en 1930, quasi l'image du maghrébin non intégrable, indésirable, rejeté et quasi fixé. Et en même temps, je le dis bien, c'est tout le paradoxe de Paris, c'est la ville de la liberté, c'est bien plus humiliant à Alger.
Voilà.
Essayons d'imaginer un peu cette contradiction formelle que symbolise Paris à ce moment-là. C'est sous ça. Et je pense que l'emblème de la Grande Mosquée, pour ça, est assez assez emblématique, c'est qu'on est à la fois dans un lieu aujourd'hui magique, on est à l'intérieur de ces jardins, on est dans un bout quelque part du Maghreb, d'Afrique du Nord ou de l'Orient. Donc en même temps, cette ville peut construire ce lieu, et en même temps, cette ville peut penser le rapport à l'autre d'une manière aussi excluante, autant inscrite dans le rejet. Et c'est tout ce paradoxe-là qui fait notre relation extrêmement ambiguë encore aujourd'hui aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, issus de cette histoire.
شي بلاك الهول ماريش مسطولة بقر التاعي تصدد واستيلو ما زالي بول جاري جاب لي ربي ما عندك ما تقول شعب النمرة قدينو واش هالقوم هذا.
Est-ce qu'il y a justement une évolution du regard porté sur les maghrébins au cours du siècle dernier ?
Oui, il y a une évolution, certes, à partir du moment où, avec avec les conflits d'indépendance, la chose va se crisper, c'est-à-dire qu'on va passer du Sidi au Felaga, pour simplifier. Il était déjà porteur de couteau et après il sait s'en servir, en gros. Mais en fin de compte, il y a à la fois une évolution et pas tant que ça. Ce qui va être le grand choc, c'est la post-guerre d'Algérie. C'est là où je dirais que souvent, beaucoup se sont concentrés sur l'analyse de ce qu'a été l'Algérie comme choc du rejet des Maghrébins en France, alors que je pense que l'intégralité, je dis bien, l'intégralité des stigmates, des rejets, existe déjà avant. Et il suffit de travailler vraiment à la loupe ces époques, les années 20, 30, 40, pour comprendre que tout est déjà mis en place. C'est-à-dire que ce n'est pas la guerre d'Algérie, n'est que la partie visible d'un iceberg déjà très présent jusqu'à maintenant. Je rappelle juste pour souvenir que dès 53, la guerre d'Algérie n'a pas démarré. On tue déjà dans Paris, dans une manifestation, des Algériens. La police tire.
La nation.
Et c'est un 1er mai. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il faut arriver à comprendre que pour moi, je pense que le vrai basculement, ça a été les années 70, quand il y a eu le regroupement familial. Quand là, on a pris conscience d'abord avec l'arrivée des femmes et des enfants, qu'ils allaient à la fois pas simplement être de passage, que le fait qu'on les remettait permanence à la mer, dans l'imaginaire collectif, là, ils s'installaient définitivement. Et là, c'est le moment où on va commencer à entendre parler de, par exemple, de grève ethnique ou de grève religieuse, où on va commencer à entendre parler pratiquement d'insurrection dans les usines. Avant de parler des banlieues, on ne parlait pas encore des banlieues dans les années 70, puisque c'était plutôt en bidonville. Mais il va y avoir, à un moment, ce basculement qui là va être très différent, je pense. Pour moi, le grand changement, il est assez progressif jusqu'aux années 70 avec la guerre d'Algérie. Et il y a ce grand changement à partir du moment où là, il y a une véritable, et c'est la montée du Front National qui veut le cristalliser le mieux, prise de conscience que les enfants s'installent. Et que les familles s'installent, et donc ils vont rester. Donc c'est l'installation de l'islam, définitive, donc c'est plus que le pittoresque d'une grande mosquée, c'est des grandes mosquées.
C'est la deuxième religion de France.
Voilà, c'est l'installation d'enfants, à l'école, avec nos enfants, c'est l'installation, la présence des femmes, c'est l'installation d'un certain nombre de phénomènes qui vont faire passer dans une autre dimension, ce qui était au départ de l'ordre d'un rejet, qui trouvait un aboutissement avec, je dirais, la non-intégration, ou la présence courte dans le pays, d'un seul coup, on passe à une autre dynamique, et puis on n'est plus dans le champ du colonial. Et là, je dirais que si je devais essayer de cristalliser, vous voyez, il y a un long processus dans le siècle, dont pour moi, la pire de basculement n'est pas tant la guerre d'Algérie, même si c'est un grand traumatisme français. Je veux dire, je sais pas ça que je suis en train de dire, mais je parle dans cette relation à l'autre qu'on a eue. Je pense que les années 70, milieu des années 70, avec le regroupement familial, ont été une date beaucoup plus charnière dans un changement d'image. Jusqu'alors, on est passé d'un Orient qui fascinait au 19e siècle vers un rejet progressif, ce que j'ai appelé le Sidi, dont le point d'orgue sont ces années 20, qui après va se stabiliser en, sur un rejet relativement long sur ce discours sur les indésirables jusqu'aux années 70 pour après prendre presque une, non pas une plus grande prégnance, mais une autre forme qu'on a très bien connue avec le Front National sur aujourd'hui, ce que l'on peut caractériser d'une manière très claire et très nette quand on parle du problème immigré, c'est les Maghrébins essentiellement, un peu de plus en plus pendant les Africains d'Afrique noire, et clairement quand on parle de problème de religion, c'est l'islam auquel on fait référence, et quand on parle d'un problème d'intégration, essentiellement on pense, parce que ça renvoie à des images très fortes comme la marche des Beurs en 83 par exemple sur Paris, encore sur Paris, tenez, encore un événement parisien, il faut monter à Paris pour exister quand on est Beurre. Si on n'est pas dans les rues de Paris à défiler, on n'existe pas. Qui montent à peu près leur parcours dans le siècle.
Bonsoir. Il y avait donc du monde cet après-midi entre la Bastille et Montparnasse à Paris pour accompagner les marcheurs contre le racisme. 80 000 personnes sans doute, ce qui constitue un beau succès. Philippe Chaffranjon, vous avez suivi ce défilé.
Sur l'esplanade devant la gare Montparnasse, un podium et la foule qui vient d'arriver, très nombreuse, probablement 80 000 personnes. Une grande affiche et une inscription, nous sommes tous du gibier. Des photos de jeunes immigrés morts, victimes du racisme et des gerbes de fleurs. Sur le podium, les marcheurs qui racontent leur périple, qui témoignent, qui lisent des poèmes applaudis par la foule. Et puis Georgina Dufoy, le secrétaire d'État à la famille et aux immigrés qui lit un message de François Mitterrand. Je m'adresse au pays interpellé par votre marche. Il faut lutter contre le racisme. Il ne suffit pas de le dénoncer. Le gouvernement a reçu des instructions de fermeté en matière de racisme, poursuit Georgina Dufoy, et d'annoncer que Robert Badinter va proposer un texte selon lequel les violences à caractère raciste seront désormais considérées comme des infractions pénales spécifiques. De ce fait, les organisations antiracistes pourront se porter partie civile. Applaudissements, mais quelques cris qui réclament aussi le droit de vote pour les immigrés. Doucement, la foule se disloque. C'est à 14h que le cortège immense a quitté la place de la Bastille. En tête, les marcheurs et un symbole. Deux baskets géantes blanches aux lacets verts. Beaucoup de monde, des hommes politiques, des syndicalistes, trois ministres et une figure très applaudie, le chanteur Enrico Macias.
racisme et instrumentalisation du racisme, ça aussi c'est une histoire constante et c'est intéressant évidemment d'essayer d'être dans le temps long, celui de l'histoire et non pas dans le temps de l'événement qui est celui des médias. Ça nous permet quand même de mettre un certain nombre de choses en perspective dans cette relation passionnelle de rejet, d'amitié, de lien, d'accueil aussi, d'asile. Faut quand même pas oublier ça non plus, ce que nous sommes. On peut pas trop s'en vouloir non plus. Et c'est ce que Blanchard, Pascal Blanchard dit d'une manière très éloquente, c'est ce paradoxe français vis-à-vis du monde arabe. On est dans ce Paris arabe et on continue.
Alors nous voilà toujours dans la mosquée de Paris. Cette fois-ci posé avec les thés à la menthe dans ce petit décor qui fait vraiment carte postale, mi-Club Med, mi-exposition coloniale.
Un pur produit des années 20, où c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. D'ailleurs, c'est intéressant de se rendre compte que ce lieu a donc vu et a traversé quasi aujourd'hui, 8 décennies d'histoire d'une présence maghrébine à Paris, en restant l'image la plus visible. C'est-à-dire, quand vous demandez aux gens c'est quoi pour vous le monument qui symbolise le mieux la présence arabe maghrébine en Paris, donc c'est la grande mosquée qui va sortir. Donc c'est encore moins, on l'a vu dernièrement avec l'Organisation des musulmans de France. Je veux dire, la réaction de toujours revenir à la grande mosquée pour trouver un interlocuteur. Comme si on avait du mal, par exemple, à parler aux jeunes générations. Comme s'il fallait toujours ramener, et de plus en plus d'ailleurs, d'une certaine manière, la présence et la représentativité des maghrébins de France à une présence religieuse. Donc c'est extrêmement intéressant de voir comment tout le débat depuis 4-5 ans s'est enchevêtré et où la grande mosquée a encore eu ce rôle central. Parce qu'on ne sait pas penser autrement notre relation à l'autre. C'est exactement pareil en termes d'urbanisme ou autre. On pense aujourd'hui les banlieues en termes d'urbanisme, on a pensé les banlieues, on continue à penser les populations des banlieues, exactement comme on pensait l'espace colonial. Ce sont des espaces de conquête, des espaces à pacifier, des espaces de conflit, des espaces où il faut envoyer l'acteur social, hier on envoyait le missionnaire, des espaces où il faut...
Non, c'est les CRS.
Voilà. En fait, on se rend compte que l'ensemble des mécanismes qui fonctionnaient à l'époque coloniale fonctionnent aujourd'hui dans les banlieues comme si on n'avait pas encore décolonisé notre modèle.
Voilà les images de zones de non-droit.
Exactement. Et je pense que ceci renvoie à des sortes de micro-colonies qui seraient venues cette fois-ci s'installer en métropole. Ben, cette pratique-là, elle a du mal à changer. Elle a du mal à changer parce que, indirectement, cette relation s'est aussi tissée dans un mode comportemental et dans un mode de relation à l'autre qui est totalement induit sur un réflexe colonial.
On a tous plus ou moins grandi au milieu de murs merdiques, au milieu de bandits. Arpenti, tu connais le verdict. Très peu d'élus pour des tonnes d'appels. La rue croule sous le déluge de mômes perdus, sans aucun code d'accès. Ils nous construisent des McDo dans les décis pour qu'on se ghettoise et puis que les murs s'épaississent. Non, ça tu manges ici, tu dors, tu dis que tu crèves ici, sans jamais briser le cercle. Et je trouve tout ça très vicieux, car ils se gardent bien de nous dire comment on sentir, comment on prospère. Sur ma vie, souhait qu'on s'enterre. Les tripes, la rue s'tempère afin d'asseoir leur empire sur l'ignorance de ceux pour qui ça s'empire. Chaque jour, ça transpire dans les blocs, ça conspire en des portes de vache mec, tout le monde crie vivement qu'on se tire de là, qu'on sorte la tête de l'eau, sans dégâts, pas facile, quand on a grandi sans mode d'emploi. Aujourd'hui les portes se referment quand on vient pas du même monde, qu'on n'a pas fréquenté les mêmes bancs, t'école même quand tu crois pourtant que t'y es. Bon, en fait t'y es pas, t'as fait 2-3 billets, mais t'as pas quitté le Tchécar. La route est compliquée sans notice, dur de traverser la vie en notice. Le savoir est une arme, mais faut qu'on l'enseigne à nos fils. Pas que ça se perpétue, ne pas transmettre les novices, sinon c'est peine perdue.
On va vous débarrasser de ces gens-là, vous inquiétez pas. Hein? Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Bonne soirée, hein.
Je crois que l'un des meilleurs exemples qu'on peut illustrer, là, si on revient sur Paris et le cas qu'on connaît, c'est que dès qu'il va y avoir un mouvement revendicatif, dès qu'il va y avoir une volonté des maghrébins de France, par exemple, de sortir du cercle dans lequel ils sont, c'est-à-dire mis en marginalité dans les villes, par exemple avec les bidonvilles de Nanterre, ou vivant dans des gourbis ou dans des petits hôtels, et quand ils vont revendiquer, notamment à partir des années 50, puisque là, leur présence devient en nombre relativement abondante, l'immigration entre 45 et 53 se chiffre en centaines de milliers de migrants et de travailleurs qui sont appelés pour les 30 Glorieuses, pour l'effort de reconstruction du pays.
On a besoin de bras.
On a besoin de bras et on va les chercher en Afrique du Nord à ce moment-là. La guerre d'Algérie n'a pas démarré. On ne peut plus fonctionner avec deux systèmes, avec deux citoyennetés à deux vitesses. Ça n'est plus possible. Le système est en train de se fissurer totalement. Et la guerre d'Algérie va être l'expression la plus visible de ça dans Paris. Parce que n'oublions pas, d'abord, le conflit avec MENA et FLN dans Paris qui a été quand même meurtrier.
Parce qu'il y a eu la guerre entre les différents mouvements indépendantistes.
Paris a été un des lieux de ce conflit, mais là aussi, ça chiffre en centaines de morts. C'est vraiment une guerre.
qui va monter crescendo. D'une certaine manière, Paris va vivre au rythme de cette guerre d'Algérie, de cette pression. Puis après, ce sera les attentats de l'OAS, que tout le monde connaît. Comment cette petite fille défigurée, on a remis, ça a vraiment été un choc dans la ville. Cette guerre va devenir bruyante, les manifestations vont s'entendre dans Paris. Petit à petit, la violence coloniale, va éclater dans Paris. Et là, d'un seul coup, pendant quelques jours, plusieurs mois, puisqu'on sait que les événements du 7 octobre ont commencé un peu avant, vont se prolonger dans les mois qui suivent, il va y avoir sous Papon d'abord une interdiction de circulation dans la ville des Maghrébins, puis de plus en plus une pression sur Nanterre comme sur les quartiers où ils vivaient, pour se terminer par un bain de sang. De cette manière, on va lâcher la violence coloniale dans la ville. C'est-à-dire qu'il va relancer une brigade spécialisée qu'on va appeler la BAV, la brigade anti-violence, qui est spécifiquement destinée aux Maghrébins, je tiens à le dire, elle n'avait pas d'autre fonction. Les fichiers vont être mis en place, le contrôle total des populations, c'est-à-dire qu'il va créer un état de guerre coloniale à l'intérieur de la capitale.
Et qui aboutit, entre autres, à ce couvre-feu.
Exactement.
Qui est quelque chose d'assez imaginable avec un tout petit peu de recul, c'est-à-dire sous De Gaulle, le grand libérateur de la France. Exactement. Voilà qu'on impose un couvre-feu racial.
Exactement, pour une population très spécifique. Véritablement racial, parce que le couvre-feu était souvent, il faut bien imaginer à l'époque, on imagine bien que la police française ne faisait pas forcément la différence entre le travailleur marocain, tunisien et algérien. Donc oui, c'est classique, c'était un couvre-feu d'élite sale gueule, et qui rendait la situation impossible d'ailleurs pour ceux qui travaillaient dans Paris. Donc on se retrouve avec une pression telle, je dis que les événements du 7 octobre ne sont que la partie visible, mais ce qu'il faut bien arriver à comprendre, c'est qu'on pourrait cumuler à travers toute cette histoire dans le siècle des petits 17 octobre. Il y a comme une culture de la violence qui s'est installée et qui va exploser à ce moment-là. Ce qui est extrêmement important à mesurer aujourd'hui pour nos auditeurs, c'est d'arriver à comprendre que tout ça se passe en plein Paris. Je veux dire que jusqu'alors, l'histoire coloniale se passait loin et qu'on avait plutôt les rêves et les fantasmes coloniaux. Les reconstitutions, les rêves d'ailleurs, les bistrots orientaux. Alors que là, on se retrouve confronté au colonialisme le plus froid, le plus direct, en fait, je vais dire froidement, le plus naturel. Ça fait partie du Paris arabe, parce que ça reste une trace indélébile, qui des fois d'ailleurs un peu trop voilée toute l'histoire qui l'a précédée. C'est assez incroyable de se rendre compte comment il y a se concentrer sur cette ville, ces drames. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui la mémoire collective a plus retenu le 7 octobre que le 8 mai 1945, d'une certaine manière. Ce qui montre le symbolique, le côté symbolique de Paris, de ce crime dans Paris.
J'ajoute une dernière nouvelle concernant aussi l'Algérie. Là, à Nanterre, une opération de police s'est déroulée cette nuit et 650 musulmans ont été interpellés. 17 suspects ont été appréhendés et conduits au poste pour examen de leur situation.
Douce France, pas trop ce jour-là en tout cas, pas trop ce 17 octobre 61, pas toujours douce et tendre avec les immigrés arabes s'installant dans cette ville, s'installant en France. Et c'est l'installation, c'est ça la grande affaire, c'est ça le grand virage, c'est ça les années 70, c'est le regroupement familial. Et là, effectivement, ce que disait à l'instant Pascal Blanchard, c'est le moment où tout bascule, c'est le moment où le regard change. La décolonisation, c'est pas nécessairement synonyme de décolonisation des esprits, des mentalités, des cœurs colonisés par la haine, pour des raisons multiples. Il n'y a pas une haine raciale ontologique, disons. Ou si elle est ontologique, on sait à quel point elle est attisée par certaines circonstances et puis par certaines manipulations. Paris arabe.
Jusqu'à maintenant, ne pas voir le travailleur arabe, c'était possible. Mais pas voir les enfants qui arrivent à l'école et les mères qui font les courses, c'est plus possible. C'est une autre visibilité qui commence. C'est-à-dire qu'on rentre dans une autre logique. Et là, je dirais que le choc des images est important. Et ce qu'on n'a pas assez mesuré, c'est que je pense que ce basculement qui se passe à partir des années 70-75, en gros, et qui vont amener jusqu'aux années Mitterrand, et je crois que, pour bien comprendre cette période, c'est 74-83. C'est-à-dire de l'émergence, de l'arrivée des familles jusqu'à la marche des beurs. Les enfants de cette immigration qui, pour la première fois, de Marseille à Paris, revendiquent. Avec une phrase qui est simple, nous existons. Ce qui montre bien qu'ils n'existaient pas avant. Voilà. S'ils ont besoin de marcher dans la rue, de faire cette marche, d'arriver dans Paris, on est en 83, je veux dire, c'est le début des années Mitterrand. Et je dirais que c'est le début du débat qu'on a commencé à entendre sur l'intégration.
C'est là où c'est des moments aussi où on invente ce mot, pour plus dire arabe, mais quelque chose entre les deux, entre arabe et français, c'est beurre.
Chaque génération a inventé son mot.
Il y avait pendant la guerre d'Algérie les Français musulmans en Algérie, avant il y avait les Sidis, avant il y avait les Orientaux, avant il y avait les Nordaf. Chaque génération a monté son mot. C'est comme pour les Noirs ou comme pour les Asiatiques. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette notion des peurs, qui aurait dû induire notamment une arrivée maintenant et une place pleine et entière dans la République,
oui,
c'est...
Ça fait quand même 20 ans, quoi. Depuis 20 ans qu'on parle de l'intégration des beurs.
Et si on réfléchit bien, ça fait en réalité un siècle qu'on parle toujours, mais par tranche de 20 ans, de l'intégration d'une époque. C'est-à-dire que les beurs avant eux, on a connu, puis avant eux, on a aussi connu. C'est-à-dire que c'est en permanence une intégration qui doit repartir à zéro, comme si chaque nouvelle génération n'était pas héritière de ce qu'ont fait ses pères et ses mères. Ce qui est un cas extrêmement particulier en France. Là, sur les Maghrébins, mais c'est valable aussi, je pense, à un moindre niveau, pour d'autres raisons, notamment de nombre et de religion, pour les Africains ou pour le Sud-Est asiatique. Et encore, le Sud-Est asiatique bénéficie du traumatisme de la guerre du Vietnam, américaine celle-là, qui nous a un peu dédouanés de cette problématique, en sachant qu'ils étaient victimes quand ils arrivaient, alors que les Maghrébins, on ne les perçoit pas comme victimes, mais bien plus comme des profiteurs. Et donc, héritiers de tout le côté négatif, plus des profiteurs d'un système alors qu'ils ont gagné la guerre. Donc il y a tout ce côté négatif qui va ressortir, qui va émerger, et en plus revendicatif. C'est-à-dire que comme on les a totalement fixés dans le champ du revendicatif, quelque part, on reprend l'image que le colonial envoie de vous. C'est pas un hasard si Senghor disait « Je déchirais le rire Banania sur les murs de France ». On sait que les images, les stéréotypes construits sont les plus durs à déconstruire. Et l'image du perpétuel maghrébin revendicatif est une image qui perdure depuis 20 ans. Ils revendiquent des places sur le sectoral, ils revendiquent des places, enfin, ils militent, ils font des grèves. Donc à chaque fois, on va regarder que cette vision négative, comme si faire la grève n'était pas plutôt un acte d'intégration. C'est se battre pour son outil de travail ici. Ou la place des jeunes beurs qui revendiquent leur place dans la République pour la construire à nos côtés. Je veux dire qu'il y a toute cette dialectique-là qui montre bien cette immense difficulté à hériter de cette mémoire. Et en plus, je dis bien une jeune génération qui, pour la plupart, ne connaît pas cette histoire. Je veux dire, quand on rappelle à un jeune gamin que son arrière-arrière-arrière, grand-père indirectement, ou les aînés, ont construit le métro parisien, c'est pas rien. Il y prend tous les jours ce métro. Quand on dit qu'il y avait un dieu du stade en 24, El Wafi, c'est pas rien. Quand on dit qu'il y avait dans Paris des gars qui venaient, des ambassadeurs, des hommes de lettres, que la première presse arabe était déjà là dès le 19e, ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il n'est pas qu'illégitime ici. Et ce regard que lui renvoie en permanence aujourd'hui, le présent sous son illégitimité presque de sang de ses pères, de ses arrière-grands-parents ici, elle est illégitime parce que tout le monde oublie de regarder cette mémoire pour arriver simplement à légitimer notre présence ici. Et c'est tout, je pense, une des grandes raisons du mal-être de la dernière génération, c'est de manquer de racines. Et c'est vrai des deux côtés, c'est-à-dire que on se rend compte aussi que aujourd'hui il y a une méconnaissance totale ou simplement une vision extrêmement misérabiliste et haute de l'histoire de l'immigration, notamment maghrébine ou africaine en France, parce qu'on l'a aussi montré comme ça. Il y a qu'il y a eu un rapport à la militance, il a fallu les présenter comme des victimes, voilà. Comme si on ne pouvait qu'on est ex-indigène, quelqu'une victime de l'histoire. Pareil arabe, oui, il y a des moments sombres, mais vous vous rendez compte qu'il y a des danseuses du ventre, de la musique, du rail, de la fête, du petit business, de la presse, de l'édition, des artistes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, il faut faire extrêmement attention aux contre-images qu'on pense fabriquer, où on pense partir dans le bon sens, mais en fait, on continue à fabriquer des victimes de l'histoire. Et l'histoire du Paris arabe, c'est pas l'histoire des victimes de l'histoire. Ils en ont pris, oui, par moments plein la gueule, soyons très réalistes, employons les mots, mais en même temps, ils ont construit leur place au soleil. Ils l'ont largement mérité. Il y a peut-être dans cette dernière génération, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que si on devait faire un dernier chapitre, c'est-à-dire 2005-2030, on ne traiterait pas de Paris. C'est dans la banlieue que se passe aujourd'hui la vie. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le Paris arabe a peut-être disparu d'une certaine manière. Qu'est-ce qui reste du Paris arabe? C'est peut-être ces gamins qui viennent zoner sur les Halles, sur les Champs-Élysées le week-end parce qu'il n'y a pas d'autre endroit.
Et parce que c'est le croisement de RER.
Exactement. Donc, ils sont un peu hors la ville et que d'une certaine manière, la culture arabe est en train de quitter cette ville qui a été véritablement, pendant plus d'un siècle, un pôle de référence, à la fois aussi un pôle de combat, mais un pôle de créativité culturelle. Et le choc de tout ça, je pense, notamment pour cette jeune génération qui arrive, c'est d'arriver à se trouver une place sans être envoyé en permanence, non pas à ce qu'on fait, mais à qui l'on est. Et donc, indirectement, ils ne connaissent pas leur histoire et pourtant ils en portent le poids en permanence. Qui est, je vous dis, le Paris arabe n'appartient pas plus aux Maghrébins de France, aux Orientaux qu'aux Parisiens. Il appartient à tout le monde. Le Paris arabe, c'est pas un Paris des Arabes. C'est un Paris arabe, comme il y a un Paris noir, comme il y a un Paris Asie. Ce sont des entités qui forment un tout en Paris. Et à un moment, il faut bien s'arrêter dessus pour aller à comprendre ce qui fait la trame d'une histoire, mais en même temps, tout ça est intimement lié. Et ce que je veux dire, c'est que ça forme Paris. Sinon, cette ville, c'est pas ce qu'elle est.
C'était un reportage de Guy Vanctil. Merci à Pascal Blanchard et Yamina Benguigui pour son film « Mémoire d'immigrés ». À lire de Pascal Blanchard et Éric Deroux, Paris arabe aux éditions La Découverte. À la technique ce soir, Clotilde Thomas et Olivier Leroux. Réalisation Antoine Chao et Yann Chouquet, assisté de Pascal Pascariello, chef du répondeur Christophe Imbert. Vous écoutez France Inter, il est 18h, le journal Bruno Dufic.